Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les vacances approchent à grands pas, enfin. Et Franck Ferrand s'est dit que nombre d'entre nous allaient avoir besoin de conseils, de visites. Il nous propose donc une émission spéciale château cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi Julia, mais où que j'aille en France, et Dieu sait que je l'ai arpenté dans tous les sens, notre beau pays, je ne peux pas m'empêcher de me renseigner sur les châteaux du coin. Qu'ils soient ou non ouverts à la visite, certains repèrent les tables gastronomiques, d'autres préfèrent les parcours de golf, d'autres encore, je sais pas moi, les gîtes ruraux ou les stages de cuisine bio. Moi, que voulez-vous, ce sont les châteaux.
Je suis un peu comme vous. Alors, pour nous aider à faire un tri, vous avez invité, en toute simplicité, le propriétaire d'un des plus beaux châteaux de France, le grand décorateur Jacques Garcia.
Jacques Garcia, qui me fait en effet l'amitié d'être avec nous. Son château du champ de bataille en Normandie mérite le voyage. Et c'est peu dire. Je suis également allé à la rencontre d'une grande dame des lettres françaises, dont je vous réserve la surprise.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Combien sont-ils au juste? 6 000, 8 000, 10 000 peut-être davantage? L'Angleterre a ses jardins, l'Espagne ses monastères, l'Italie ses chapelles peintes, et bien la France a ses châteaux. Toutes sortes de châteaux, des forteresses et des castels du Moyen-Âge, des gentilhommières Renaissance, des palais 17e, des folies 18e, des manoirs 19e, des châteaux d'amour mais aussi de guerre, des châteaux tout virils et d'autres des châteaux de dames, des châteaux royaux, d'autres bâtis seulement pour un financier ou un marchand ou un fermier général. Les rives de la Loire ont longtemps été leur terrain de prédilection. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, écrivait Charles Péguy à propos des châteaux de la Loire. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses vallées. Cela dit, le Périgord, la Bretagne, l'Alsace, le Forez et le Bourbonnais, et la Provence et l'Auvergne et la Picardie et la Normandie et la Gascogne et la Savoie et le Morvan ne sont pas mal pourvus non plus. L'immense troupeau des châteaux français, véritable richesse secrète parure du pays, se trouve harmonieusement dispersé, réparti, parfois un peu dissimulé dans le creux de nos vallons, au sommet de nos promontoires, dans la boucle d'un fleuve ou bien au bord d'un coteau. Presque pas de vieux village en France sans son château et sans ses châtelains dont on ne parle qu'à mot couvert au café de la place pour peu qu'on se sente en confiance. Presque pas de petit pays pétri de tradition sans sa tour pigeonnier, son escalier à lanterne, sa galerie ouverte, sa rotonde hérissée de trophées, son chef-d'œuvre unique au monde et cependant méconnu. Ce sont peut-être, vous savez, les plus beaux souvenirs de ma vie, lorsqu'adolescent avec ma mère ou un vieil ami, nous écumions le Poitou à la recherche de la moindre de ces maisons survivantes du passé, des demeures parfois ruinées, parfois conservées miraculeusement, pleines de l'empreinte des générations successives de propriétaires investis, hantées encore par tel ou tel grand personnage de l'histoire qui avait vécu là, qui sa retraite, qui son baptême, ou bien un repos avant le combat, ou bien une disgrâce douce amère loin de la cour. Chez l'amateur, que dis-je, chez l'amoureux de château, la présence d'une belle demeure alerte une sorte de radar naturel, ou plutôt culturel. Pas besoin de voir la façade à pilastres ou le haut toit d'ardoise, la tour coiffée d'un dôme ou la terrasse à balustres pour sentir la présence du joyau de pierre ou de granit, de tuffeau, de briques, de silex. Proie sublime, tapis là quelque part derrière ce rideau d'arbres. Il suffit d'une rue plus droite et mieux dessinée au cœur d'un village, d'un muret en partie écroulé au bord d'une route, d'un dégagement au détour d'une forêt pour révéler la présence du haut lieu convoité. Ah, cette espèce de serrement de cœur devant la belle grille ouvragée qui révèle l'échelonnement harmonieux d'une cour et de commun qu'on imagine bourré de calèches ou de landaus oubliés, la joie de deviner, tandis qu'on progresse le long d'un chemin pentu, une masse de hauts murs à travers les épaisses frondaisons d'un bois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Julia, mais personnellement, je n'ai pas de préférence d'époque ou de style. Un château fort méridional, encore tout empreint du souvenir douloureux de la croisade contre les Albigeois, m'émeut autant qu'un gracieux pavillon édifié au XVIIIe par un fermier général épris de musique ou de galanterie, comme c'était souvent le cas. Une grosse villa anglo-normande de la belle époque, comme celle de Maurice Leblanc, que nous avons visité l'autre jour à Étretat, me séduit autant qu'un manoir renaissance en pierre de tuffeau, dont les grandes salles, couvertes de tapisseries aux mille fleurs, embaume la cire et les fleurs séchées. Très souvent, le château, même remanié, même dégradé, même bousillé par toutes sortes de panneaux, de cordes, de petites affichettes sorties de secours et de bouts de moquette destinés à la visite et aux affreux touristes. Vous aurez remarqué que les touristes sont toujours affreux parce qu'ils sont vos concurrents et vos rivaux. Très souvent donc, le château recèle un trésor, une table précieuse rapportée d'Autriche-Hongrie par un ancêtre ambassadeur, un plafond peint à fresque dans le goût du Primatitch et redécouvert par hasard à la faveur de travaux de rénovation, un étrange dallage de marbre à la signification plus ou moins perdue, il y a toujours un érudit local qui lui connaît la signification, ou bien un retable de chapelle attribué ou attribuable à Poussin, une cheminée sculptée suspendue dans le vide au milieu d'un haut mur, ultime vestige d'un corps de logis 15e aujourd'hui disparu. Tous ces vestiges, le mobilier, les objets, les collections, le décor dans le meilleur des cas, sont comme des primes à l'audace que le chasseur de merveilles sait apprécier à leur juste valeur. Et puis, dans le château visité, il y a presque toujours une magie supplémentaire. Quelque chose de plus immortel que la pierre ou le souvenir surgit de tous ces châteaux, a écrit Jean d'Ormesson. Ce sont les mots. Ils naissent des rues ou des bois, du lit des courtisanes et des champs de bataille. Ils naissent aussi de ces demeures de rêve qui apparaissent plus belles encore d'avoir nourri tant de songes, tant de souffrances à jamais exquises, tant de passions et de génie.
Un extrait sur Europe 1 de la méditation de Thaïs, un opéra de Jules Massenet, Franck.
Jules Massenet dont on célèbre le centenaire, c'était l'occasion ou jamais. Alors parmi les innombrables châteaux de France, très peu appartiennent à l'État. Il est vrai que ce sont souvent les plus grands et ceux dont le passé royal ou impérial les a dotés d'une histoire passionnante. Un certain nombre appartiennent à des communes, des conseils généraux ou régionaux ou bien à de grandes sociétés ou qui font comme ça des placements de plus en plus ou des associations. Le reste, c'est-à-dire l'écrasante majorité, ce sont encore des propriétés privées, personnelles, parfois la propriété de famille qui les occupe depuis de très nombreuses générations. Je pense notamment à Henri-François de Breteuil, propriétaire du château de Breteuil que je salue, au Ganet évidemment, à Courance et Fleury, au Luynes, à Dampierre, au Vauguet, à Vaux-le-Vicomte qui nous ont si gentiment reçus il y a quelques semaines à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de l'architecte Levaux. Ce sont là de grandes demeures familiales et qui, si les pouvoirs publics n'adoptent pas une fiscalité trop aberrante, le resteront longtemps, en tout cas je l'espère. D'autres propriétaires sont plus récents, voire très récents. Ce sont des amoureux devenus amants, des passionnés absolus, des mordus, des fondus de patrimoine qui consacrent toutes leurs ressources et parfois davantage à ce qui devient l'œuvre d'une vie, entretenir, restaurer, maintenir, parfois sauver une grande demeure dont ils ne sont que les passagers dépositaires. Vous connaissez la formule, elle est célèbre, on ne possède pas un château, c'est lui qui vous possède. Quand je songe au travail magnifique qu'ont accompli par exemple Marc Simonet Langlard, Pierre Almendros et Anne-Marie Joly à Cormatin, ou bien François Herrière Dubreuil à Gourville, ou encore Monsieur et Madame Larquetou à la citadelle de Belle-Île dont on a beaucoup parlé ici, on pourrait citer comme ça de très nombreux exemples, je suis tout simplement confondu d'admiration et de gratitude. Alors certains se lancent ou se relancent, on sait qu'en ce moment Jean-Louis Remilleux, après avoir ressuscité la merveille de Bestégui à Grousset, prend en main les destinées de Digoine en Bourgogne, quelle chance pour Digoine. Un clin d'œil aussi à notre ami Yves Lecoq qui, après avoir sauvé les châteaux de Suzanne dans la Somme et de Villiers-le-Bacle dans l'Essonne, s'attaque à ceux de Chambes et Chalais en Charente. Beau courage! L'exemple le plus fascinant, ça reste évidemment le cas du château de Champ de Bataille dans l'Eure. Champ de Bataille près du Neubourg entre Évreux et Louviers, racheté en 1992 par Jacques Garcia, soigné depuis, restauré, rétabli dans ses volumes, entièrement redécoré, remeublé et entouré d'immenses jardins à la française, les seuls d'une telle importance créés au XXIe siècle, des jardins créés de toute pièce pour servir d'écrin aux bâtiments superbes, à la place de pinèdes et de simples prairies d'herbes à vaches. Eh bien, le sauveteur de Champ de Bataille, l'homme qui a redonné vie à cette importante propriété, dont il a fait une des plus belles maisons de France, est avec nous dans ce studio, c'est bien sûr Jacques Garcia. Bonjour cher Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous aussi un de ces fondus de châteaux dont je parlais. C'est une passion qui remonte à l'enfance, on peut le dire, dans votre cas.
Oui, c'est un parcours un petit peu particulier puisque je suis issu d'un milieu modeste et mon père avait la passion de l'art d'une manière générale. Il était violoniste amateur et il a trimballé ce petit gamin dès son plus jeune âge avec du succès puisque je dois dire j'ai donné du répondant, donc c'était pas une véritable corvée. Et faut dire que nous avons profité au départ, on ne le rappelle jamais assez, de la loi Malraux, et c'est cette loi qui a permis l'ouverture au public de maisons inaccessibles socialement en tous les cas, puisque les ducs et pairs de France, les marquis et possesseurs du territoire, les comtes et possesseurs de leur village et les barons possesseurs de leur gens se sont vus obligés, pour des raisons strictement matérielles souvent, d'ouvrir leurs portes. Et c'est ce qui nous a permis à nous, pauvres manants, souvent
dont je fais partie.
C'est pour ça que
et
je le dis.
Moi aussi.
Franck, je vous connais assez pour savoir que nous partageons le même point de vue et les mêmes origines. Donc nous avons pu accéder à tout ça et finalement comprendre autrement. Et moi, ça m'a fait comprendre la vie d'une autre manière. Et ça m'a surtout fait comprendre qu'il y avait deux mondes, et sans renier le premier, en tous les cas, c'était dans le second que je voulais vivre.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous partons aujourd'hui à la découverte de quelques-uns des plus beaux châteaux de France, en très bonne compagnie, celle de Jacques Garcia, le grand décorateur, Franck.
Eh oui, nous allons parler des châteaux. Alors, pas tous, évidemment, parce qu'il y en a tellement, vous rendez compte, des milliers de châteaux. Je suis sûr que tous nos auditeurs ont à proximité de chez eux, ils n'ont qu'à allumer leur GPS, ils vont bien voir un château dans un rayon, allez, on va dire de 3 km. C'est tout à fait extraordinaire, une telle densité, c'est phénoménal. J'ai entre les mains un très beau guide qui est publié par les éditions de La Martinière, qui s'appelle 500 châteaux de France, un patrimoine d'exception, de Josiane et Alain Cassaigne, avec des textes. Alors, Josiane et Alain Cassaigne sont les photographes et les textes sont de Sophie Beaugroff. C'est une sélection, un florilège de ce qu'il y a de plus extraordinaire, en tout cas à leurs yeux. Il y a quelques petites lacunes peut-être, mais enfin, globalement, tout y est, dont une superbe page consacrée au château de Champ de Bataille, cher Jacques Garcia. Nous allons parler dans un instant du guide des châteaux de France qui vient de paraître au Cercle du Patrimoine, mais j'aimerais avant cela que nous écoutions Juliette Benzoni, il y a quelques jours, avec Lorena Martin, qui m'aide à préparer cette émission, et je profite de cette fin d'année pour lui rendre hommage, ainsi qu'à Guillaume Vasso, vous savez,
grand réalisateur.
Avec vous, Julia, vous êtes les trois piliers de cette émission.
Eh
bien, avec Lorena, nous sommes allés rencontrer Juliette Benzoni chez elle. Elle publie, ou republie plus exactement chez Perrin, le roman des Châteaux de France, avec une préface de l'ami Stéphane Bern, et je lui ai demandé, ben vous allez voir, je lui ai posé une question sur ce qui, elle-même, la passionne dans ces châteaux.
Est-ce qu'il y a parmi ce florilège, parmi cette constellation de châteaux que vous nous proposez, des maisons qui vous sont plus chères que d'autres? Est-ce que dans certaines, vous avez tout simplement des souvenirs personnels?
Un souvenir d'enfance, mais qui a tout déterminé chez moi. Et ce qui fait que j'ai une préférence marquée pour Chambord. J'avais 5 ans. Quand mes parents m'ont emmené visiter Chambord. Si vieille que je sois, je me souviens encore de l'éblouissement que j'ai eu en face de ce madréport de blancheur et de... Oh, même quand j'ai vu Versailles après, ça n'a pas été la même chose. Je n'ai pas retrouvé le même émoi, le même... En plus, à l'époque, ce n'était pas bourré de cartes de touristes. On était 2 ou 3, 4 ou 5 à visiter. Et Chambord, ça a été pour moi l'éblouissement.
Il y a parmi tous ces châteaux des demeures qui appartiennent à des registres très différents. Ça va du grand palais d'État jusqu'au tout petit château de famille et même à la folie de parc. Alors, Chambord, évidemment, c'est un de ces grands palais d'État. Est-ce que parmi les petits châteaux, il y en a qui ont votre affection ?
Bon, par exemple, Bagatelle. J'aime beaucoup Bagatelle, c'est... il est né d'un pari. C'était le comte d'Artois. Avait fait le pari avec Marie-Antoinette de le construire en, je crois que c'était un mois. Et il a tenu son pari. Dans les tout petits, il y a celui-là.
Moi, j'ai ces souvenirs d'enfance. Il y avait toute une pratique du château, autrefois. Il y avait les guides en tenue qui récitaient leurs textes. Il y avait les petits cartels, souvent un peu jaunis, devant des œuvres qui étaient plus ou moins authentifiées et identifiées. Tout ça, évidemment, s'est perdu avec l'arrivée des audioguides, des circuits touristiques automatisés. Est-ce que, d'après vous, c'est un peu de l'âme des châteaux qui est partie ?
Je trouve que, oui, je regrette les guides qui traînaient un peu les pieds, qui quelquefois avaient un peu oublié leur texte ou qui... Et par ici, mesdames et messieurs, vous allez voir la chambre, etc. Mais ils y mettaient quand même du cœur. Et ils étaient un peu l'âme de ces châteaux.
Moi, je trouve qu'ils étaient même beaucoup plus, chère Juliette Benzoni, l'âme de ces châteaux que ne le sont les audioguides d'aujourd'hui, évidemment, même si c'est plus pratique à tout point de vue, bien entendu, puis chacun visite à son rythme. On a des souvenirs fabuleux de visites de ces maisons, Jacques Garcia, à une époque où effectivement le guide apprenait son texte par cœur, il avait la casquette un peu de travers et
moi,
il récitait.
J'ai eu la plus belle expérience au champ de bataille. On était en train de restaurer un des salons où les dorures étaient en train de se faire, etc. Et puis la guide était dans la pièce, j'étais derrière, elle le savait pas, avec un petit groupe. Et puis elle démarre. Alors voilà, vous êtes donc dans le salon et vous voyez ici, comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'or. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'or parce que Jacques Garcia a des clients arabes et qu'ils aiment beaucoup l'or. Vraiment, j'ai failli faire une syncope dans la pièce d'un côté. Et c'est d'ailleurs de ce jour que j'ai décidé de mettre des audioguides.
L'avantage des audioguides, c'est qu'on les contrôle forcément. Alors il n'y a pas que les audioguides, il y a les guides tout court, les guides papier bien entendu. J'ai entre les mains le guide des châteaux de France que publie le Cercle du Patrimoine, nouvelle édition 2011-2012, 1000 châteaux à visiter. Alors dans ce guide il y a tout, bien sûr une photo du château et mais des cartes pour avec des plans, des descriptifs, tous les renseignements que vous pouvez souhaiter sur les facilités, sur les ouvertures, les horaires, les jours, les saisons. C'est un guide très complet et nous avons au téléphone pour en parler, Philippe Vogel, qui est le président fondateur de l'association Le Cercle du Patrimoine et qui donc dirige la rédaction du Guide des Châteaux de France. Bonjour Philippe Vogel.
Bonjour.
Vous faites partie de ces fondus de châteaux dont je parlais, vous aussi. Vous en avez visité depuis votre jeune âge, j'imagine. Ça ne vous est pas venu tard, cette révélation-là.
Non. Absolument. En fait, moi je suis d'origine suisse, donc ça rajoute encore une certaine couche. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les châteaux français et j'ai passé beaucoup de temps en France à les visiter, à les étudier, par une passion tout à fait personnelle. Et c'est à partir de là, effectivement, quand on commence à sillonner un peu les régions de France, qu'on se rend compte que c'est malgré tout assez difficile à trouver les informations. Et souvent, on quitte une région pour revenir à Paris, pour se rendre compte une fois à Paris qu'en fait, justement...
Qu'on est passé à côté d'une merveille, ça c'est souvent le cas.
Absolument, voilà. Et ça, c'était assez frustrant, effectivement. Et c'est à partir de là qu'était née l'idée de créer ce guide complet. En fait, un guide qui ne dépendait pas de l'adhésion du monument
à une association, voilà, c'est ça, c'est très bien.
Au contraire, était là comme plateforme, on va dire, gracieuse en quelque sorte, mais qui a effectivement comme vocation à être le plus complet possible.
J'aurais bien aimé avoir ça, moi, quand j'étais jeune. Je suis en train de regarder ce que vous avez mis pour ma région, évidemment, pour le Poitou, que je connais mieux que d'autres, pour ce qui est des châteaux. C'est quand même très complet, c'est étonnant, avec à chaque fois la carte routière, l'indication de l'endroit exact. Vous avez fait une enquête, comment vous avez téléphoné aux 1000 propriétaires de ces extraordinaires maisons?
C'est-à-dire, c'était effectivement une collaboration avec toutes les grandes associations. On avait travaillé avec le Vieille Maison Française, la Demeure Historique, la Fondation du Patrimoine et Monum. À l'époque, ça s'appelait Monum. Donc, et en fait, on a tout commencé par une recherche en fait informatique. On a tout recensé, tous les châteaux qu'on pouvait trouver dans les documentations, on va dire touristiques ou publications et autres. Donc, on avait effectivement recensé 3000, 4000 châteaux. À partir de là, on a essayé de rassembler les informations nécessaires par rapport à ceux qui étaient en fait à visiter, parce que nous, notre vocation, c'est les châteaux ouverts à la visite. On indique aussi s'ils font chambre d'hôte, mais notre cheval de bataille, c'est en fait d'encourager, de faciliter la visite. Et à partir de là, effectivement, on est rentré en contact avec les châteaux. Alors, donc, tous les châteaux, en fait, étaient effectivement au courant de cette publication.
Alors, Paul-Philippe Vogel, j'ouvre votre livre à la page 91. On est dans la section Haute-Normandie, qui est verte dans votre livre, et vous écrivez « Cette ancienne demeure de campagne des ducs d'Harcourt, élevée entre 1653 et 65 sur le site d'une illustre bataille, on ne sait pas tellement laquelle, d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, vient d'être revisitée avec le souffle de Versailles. Elle invite désormais à la découverte d'un fastueux décor intérieur dans lequel prennent part un luxueux mobilier des collections d'œuvres d'art des plus spectaculaires. Jacques Garcia, son propriétaire, s'est inspiré de la philosophie de l'humanité pour créer les nouveaux jardins à la française qui illustrent la symbolique des 7 degrés de la création. Je trouve qu'en quelques lignes, c'est assez bien résumé le travail magnifique de Jacques Garcia à Champ de Bataille. Si chaque notice est aussi bien faite, on ne peut que recommander votre guide des châteaux de France, publié donc par le Cercle du Patrimoine, sous votre direction, Paul-Philippe Vogelet. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1 du divertissement de Chambord de Jean-Baptiste Lully. Nous nous intéressons aujourd'hui au château de France et chers auditeurs, c'est le moment de vous faire partager sur l'antenne d'Europe 1 vos idées, vos suggestions de visite.
Il y en a qui arrivent déjà, donc n'hésitez pas. Si vous connaissez une petite merveille à proximité de chez vous ou tout simplement parce que vous l'avez croisée sur le chemin d'une de vos randonnées ou vacances, n'hésitez pas à nous le dire, nous transmettrons ça. Ce sont des conseils qui sont bons à s'échanger entre passionnés et je vous promets que Julia va garder les fiches pour aller se promener elle aussi bientôt pendant les vacances.
Vous savez tout.
Ouais. Quoique vous, pendant cet été, j'ai cru comprendre que vous alliez être très occupé.
C'est gentil, j'aurai ma propre émission, c'est vrai, c'est gentil.
C'est bien. Alors, nous sommes nous plongés au cœur de l'histoire. Jacques Garcia est de son côté plongé au cœur du petit guide de ces châteaux de France, qui a l'air de vous absorber littéralement. Vous avez visité ce château de Champ de Bataille, qui est devenu la merveille que l'on sait. Vous l'avez visité quand vous étiez tout enfant, vous.
Oui, je l'ai visité quand le duc d'Harcourt l'a ouvert au public. C'était un château qui avait été très dévasté puisqu'il était devenu un hôpital et le duc d'Harcourt l'avait repris après la guerre avec les dommages de guerre de Thury-Harcourt. Il a rénové les toitures et puis ouvert 3 pièces au public. Le reste, malheureusement, je pense que l'argent n'a pas suffi et le reste est dans l'état où je l'ai trouvé. Et c'est-à-dire l'état de l'hôpital précédent.
Et c'était devenu un hôpital pendant la guerre,
oui,
c'est ça?
Oui, c'était un hôpital, et puis c'était un hôpital avant la guerre, un hôpital de la ville du Neubourg, et puis c'est devenu une prison pas très glorieuse pendant à la fin de la guerre, ce qui n'était pas la partie la plus drôle
de l'histoire
du château. Donc, si vous voulez, j'ai visité ça avec mon père, comme plein d'autres endroits, comme je vous ai dit, puisque ça s'est ouvert au public, avec la loi Malraux, etc., etc. Et j'avais été extrêmement séduit. Alors, c'est pas moi qui vous raconte l'histoire, mais c'est mon père qui me dit, mais c'est drôle parce que tu m'avais dit, en visitant ça, je voudrais être architecte. Et il m'avait dit, mais pourquoi veux-tu être architecte? Pourquoi dis-tu ça? Je dis, parce que j'aimerais faire des belles choses comme ça.
Ah, c'est magnifique. C'est
la phrase, moi, je m'en souviens évidemment plus, mais c'est lui qui me l'a rappelé quand j'ai voulu acheter Champ de Bataille.
Le château de Champ de Bataille, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il faut dire, est une merveille d'architecture. Vous avez un corps de logis central qui, donnant sur une grande cour, comme une sorte de carrousel, c'est très parisien comme architecture, bien qu'on soit en Normandie, vous avez en face un bâtiment qui est exactement le reflet, comme si le château se reflétait dans un miroir, sauf que quand vous tournez la tête, vous avez un autre château de l'autre côté de la cour. C'est complètement fou. Tout ça, évidemment, avec un système d'arcades, d'arc de triomphe, etc., qui plus on avance du château, plus se révèle aux visiteurs. Vous êtes d'ailleurs en train de rétablir en ce moment l'ancien accès, celui du XVIIe siècle, pour rendre à l'architecture géniale de ce château de Champ de Bataille toute son ampleur et toute son intelligence.
Alors voilà, ce qui m'a poussé finalement à acheter, c'est pas le souvenir d'enfance, bien évidemment, c'est je cherchais un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que j'avais eu une autre propriété en Bourgogne que j'ai adorée.
Château de Menou.
Voilà, j'avais une maison à Paris qui était l'hôtel Mansart-Sagone, qui était évidemment un chef-d'œuvre avec tous les plafonds peints par Lebrun. J'ai décidé de vendre tout ça et de m'attaquer à quelque chose de vraiment fort, qui serait une vocation à long terme, puisque ça a pris 20
L'œuvre
ans.
D'une vie,
l'œuvre d'une vie, on pourrait dire. Et les deux autres ayant servi de maquette, finalement, si on peut dire. Et le champ de bataille s'est imposé pour une raison très simple. C'est que, sans en avoir la certitude, mais finalement les incertitudes sont des certitudes, Champ de bataille était construit par un homme qui était condamné à mort par Mazarin. C'est un homme qui avait choisi la Fronde et finalement il sauve sa peau et il va être simplement condamné à résidence.
Comte de Créqui.
Le comte de Créqui, qui est un personnage très important, très puissant. Bon, et finalement, il décide de construire cette maison. Il est l'ami du prince de Condé et il s'adresse en toute certitude, sans en avoir la certitude, à Levaux. Car c'est construit entre 51 et 58, c'est-à-dire avant Vaux-le-Vicomte, avant Versailles. C'est contemporain de Vincennes. Or, le plan de champ de bataille que vous avez décrit, c'est le plan de
Pavillon
Vincennes.
Pavillon du roi, pavillon de la reine.
Et pourquoi est-ce aussi extravagant? Pourquoi est-ce aussi novateur? Pourquoi est-ce aussi italianisant, entre guillemets, ce château, avec deux arcs de triomphe pour entrer et sortir de sa cour? C'est que le Vaux revient d'Italie et il est très influencé par ce qu'il a vu là-bas et il veut redonner une maison à un homme qui n'a plus de gloire, alors que cet homme tire sa fortune de sa famille qui remonte aux croisades, et il lui met deux arcs de triomphe dans sa cour.
C'est pas mal quand même. C'est ce qui s'appelle quasiment un pied de nez au pouvoir de l'époque. Alors, ce château, vous le trouvez dans l'état où il était. Vous l'avez entièrement restauré, remanié. Vous lui avez même rendu son architecture d'origine en rétablissant les pavillons à terrasse des angles qui avaient été couverts depuis le XVIIIe siècle, hein, de grandes toitures qui masquaient un peu l'architecture et l'idée centrale.
Oui, alors, sur le plan, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que sur le plan de l'architecture, rien n'avait bougé au niveau des extérieurs. Simplement, un ami, Jean-Jacques Gauthier, qui travaille au Mobilier National comme inspecteur et qui avait fait des recherches sur la maison, me dit « Écoute, c'est bizarre, j'ai des factures dès 1665, c'est-à-dire 7 ans après la construction, de réparation de terrasses en plomb. » Or, il n'y avait pas de terrasses en plomb. Je lui dis « Écoute, tu te trompes de château. » Avec humour. Et finalement, non. Donc, on est monté dans des petites toitures de côté qui étaient assez laides, d'ailleurs, qui faisaient un peu pagode chinoise.
Oui, c'est ça. Comme des capotes.
Et on a découvert que sous ces toitures existaient des terrasses en plomb à l'identique de Versailles, à l'identique de l'Institut, car exactement. Il faut bien vous rappeler que Champ de Bataille était construit en même temps que l'Institut.
Que le Collège des Quatre Nations.
C'est ça, et c'est le même principe avec une balustrade fausse qui ne sert pas de balustrade, mais qui sert simplement à cacher la toiture. Et c'est, évidemment, il y a plein de similitudes. Et c'est pour ça que j'avais dit, très simplement, entre les clochetons des angles, les balustrades, les bustes accrochés sur les façades, tout un ensemble de choses, des arcs de triomphe. Si c'est pas le Vaux, c'est un architecte de génie que le Vaux a tué pour qu'on ne sache jamais qu'il l'avait copié.
Ça pourrait être une hypothèse, après tout.
C'est une hypothèse intéressante.
Ça me donne
en
des
tous les cas, pour un film, c'est une hypothèse.
Oui, pour une énigme historique, oui. Pourquoi pas. Alors, ce château, vous l'avez donc rétabli dans sa plénitude, et ensuite vous êtes attaqué aux intérieurs. C'est-à-dire que ce travail extraordinaire pour le rétablissement extérieur, il fallait le faire aussi à l'intérieur, car l'essentiel des décors du XVIIe et du XVIIIe avait disparu. Certains étaient restés, mais l'essentiel avait disparu.
Oui, alors tous les décors du XVIIe avaient disparu. Intégralement. Mais il restait une chose qui m'a poussé à l'achat, parce que je me suis longtemps posé des questions. J'aurais préféré acheter une maison où il n'y ait pas grand-chose à faire, pour être très clair. Mais bon, c'est très difficile à trouver, les maisons ont souvent beaucoup bougé, donc bon. Et moi, j'étais collectionneur de meubles, en tous les cas, ou royaux, de provenance royale, les grands meubles, entre guillemets, depuis toujours. Et je cherchais un endroit pour y placer ce genre de choses. Donc un château, entre guillemets, ne marchait pas. Il me fallait une espèce
un palais. Voilà.
Sinon, ça ne marchait pas. Or, il y avait un espace palais dans cette maison, des plafonds à 7,50 m, des pièces de 8,50 m pour les plus petites en largeur, double exposition sur les fenêtres, et puis un grand décor existant avec un escalier par Gabriel merveilleux d'époque Louis XVI, un grand vestibule central qui sert de salle à manger existant, et un grand salon avec tous ses décors. Ça suffisait finalement pour réinventer tout le reste, qui avait été coupé, morcelé, dédoublé, avec des couloirs, des corridors, là où il y avait originellement des grandes galeries, des grands salons, etc. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire.
Mais le grand salon, par exemple, le grand salon de marbre, qui s'appelle le salon d'Hercule, qui est en haut sur le palier de l'escalier d'honneur, a été entièrement recréé par vous. C'est un volume magnifique, un volume royal, à l'emplacement de ce qui au départ était 6 pièces sur 2 étages, c'est ça ?
Voilà, 3 pièces, un couloir, un petit escalier, qui avait donc été refait pour des chambres d'hôpital, tout simplement. Donc je suis revenu à l'espace initial, et j'ai eu la chance, bon, vous me direz, c'est aussi mon métier, donc je l'ai pratiqué ça pour plein de choses, je le fais en ce moment pour le Louvre, je le fais pour Versailles, donc c'est exactement le même travail, finalement. J'avais eu la chance d'acheter un grand plafond peint d'époque Louis XIV, que je gardais précieusement, et j'ai pu réadapter ce plafond, qui a été la base, évidemment, de cette énorme pièce qui est sur les thèmes des travaux d'Hercule, d'où le nom Salon d'Hercule, et qui correspond à la géométrie de l'inventaire de 1704.
Hein. Vous êtes allé plus loin, Jacques Garcia, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes ces reconstitutions, vous avez voulu rendre à une grande demeure de l'Ancien Régime la respiration qui était la sienne autrefois. Nous allons voir comment vous vous y êtes pris, et puis nous allons voir aussi, et ça c'est encore plus fascinant, comment vous avez créé tout autour d'immenses jardins à la française, des dizaines d'hectares de perspectives, de terrassements, de pièces d'eau, de grands canaux qui font 500 mètres de long. C'est une entreprise titanesque, unique au monde à notre époque. Nous en parlons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en compagnie du grand décorateur Jacques Garcia, et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au château.
Et oui, nous avons la fièvre châtelaine, que voulez-vous que je vous dise, Julien. C'est comme ça, on aime les châteaux, on essaie d'aller les découvrir au détour des routes de nos vacances. J'ai demandé à nos auditeurs et à nos auditrices de nous envoyer quelques conseils, ils arrivent là, par pleine brassée, et à ma grande surprise, les 3/4 des châteaux qu'on nous conseille sont des châteaux médiévaux, des forteresses et des châteaux forts. Bon, pourquoi pas, j'aime bien ça aussi, moi, les châteaux forts. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le champ de bataille dont nous parlons avec Jacques Garcia aujourd'hui n'est pas du tout un château fort. C'est l'exact archétype de ce qu'est un grand palais du XVIIe siècle, remanié au XVIIIe et entièrement repensé par un créateur d'art au XXIe siècle, puisque le château, vous l'avez acquis en 92 et que les travaux sont toujours en cours, même si tout ça est bien sûr maintenant atteint un niveau de perfection. Moi, je me pose un peu la question de savoir ce que vous pourriez bien faire encore, mais vous trouvez toujours des choses à faire, Jacques Garcia. Alors, revenons à, je parlais de l'économie de cette maison, je sais qu'il y a des auditeurs que ça irrite, mais c'est la façon dont on parle des châteaux normalement, on ne dit pas château, on dit maison, c'est comme ça, si vous voulez que j'y fasse. Donc l'économie de ce château, si l'on peut dire, qui est bien celui du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que vous y avez réinstallé le mobilier, les décors, mais aussi la vie qu'on mène, telle qu'elle pouvait être sous l'Ancien Régime, ça c'est assez stupéfiant.
Oui, si vous voulez, je voulais pas. C'était pas l'idée. N'était pas de faire un musée, de faire une maison figée, une reconstitution pure et dure. Moi, j'ai été fasciné dès mon enfance quand j'ai un petit peu la découverte des lieux importants. Je vais citer un exemple très simple, c'est-à-dire que par exemple le Vaux-le-Vicomte que j'ai connu quand j'avais 20 ans à l'ouverture au public, Camondo que j'ai pu connaître, Jacques Marandré, extraordinaire.
Ce sont des demeures de collectionneurs.
Ou Waddesdon en Angleterre, des maisons de ce genre. Et toutes ces choses étaient des... Alors, je cite les mieux, là, pour dire celles qui sont restées globalement à peu près dans l'état. Mais j'ai connu aussi des quantités de maisons fantastiques qui se sont dépeuplées de tout leur mobilier année après année pour des raisons économiques, sociales, de division d'héritage, la vie. Et moi, je me suis dit qu'au fond, j'allais consacrer ma vie de là où je venais, c'est-à-dire pas grand-chose, à faire ce que les grands ont pu faire en 5 générations. et c'était amusant l'idée de faire des strates. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les strates. Le goût français est un goût qui est toujours à la mode. C'est-à-dire que le français veut toujours avoir le truc à la dernière mesure. Dès le XVIIe siècle, en 1760, ce qui est 1750, c'est démodé. On enlève tout et on recommence. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vision, comme on peut le voir en Angleterre ou en Italie, où les époques se succèdent les unes après les autres.
On peut retrouver l'empreinte de chacune.
La vie, entre guillemets, qui se fait sur une centaine d'années.
Un mot, parce que nous n'aurons pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais tout de même, de cette extraordinaire création végétale, avec Patrick Potier, vous avez réalisé ces gigantesques jardins de champs de bataille.
Voilà, alors ça c'est évidemment, je crois que c'est ce qu'il y a de plus fort peut-être pour le public en tous les cas, parce que des collections on en connaît beaucoup, mais une trentaine ou une quarantaine d'hectares partis d'un champ à vaches, j'ai eu énormément de chance, c'est ma rencontre avec Patrick Potier, qui est un garçon qui a un talent fou, une créativité folle et qui a pu exacerber, je dirais, mes désirs et mes fantasmes. J'avais envie d'un grand axe et pour ce faire, il a fallu faire des montagnes, de bouger des terres, enfin, on a des proportions incroyables. Mais ça ne suffisait pas, car un jardin, c'est à la fois la grandeur et c'est la fantaisie. Or, pour créer la fantaisie, Patrick a été tout à fait exceptionnel. Et ceux qui visiteront la maison vont découvrir non pas un jardin, mais des successions de jardins qui évoqueront des masses de souvenirs, de voyages, d'odeurs, de philosophies différentes. Et je crois que c'est ça la grande
réussite. On se promène autour du bassin méditerranéen, on se promène un peu partout. Effectivement, c'est un jardin qui fait voyager. En faisant le tour des jardins de champs de bataille, on a l'impression d'avoir une sorte de florilège de tout ce que la culture des jardins dans le monde nous a apporté, jusque dans l'Orient du reste. C'est tout à fait fascinant. J'aimerais vous faire entendre, Jacques Garcia, un autre moment de l'entretien que m'a accordé Juliette Benzoni sur les châteaux. Elle nous parle en l'occurrence des châteaux de dames.
J'aimerais que nous évoquions les châteaux de ces dames, si je puis dire, en commençant par la demeure inoubliable d'un personnage inoubliable, c'est Annette, la propriété de Diane de Poitiers. Est-ce que, malgré toutes les transformations survenues, et vous le dites, hein, notamment au XIXe siècle, est-ce que l'âme de Diane est encore un peu présente dans ces murs ?
Je vais vous confier une chose, je n'ai pas beaucoup de tendresse pour Diane de Poitiers. Le château, lui, ben, il n'y en a plus que la moitié. Il reste la chapelle, et puis ce magnifique portail d'entrée avec un cerf couché dessus. J'ai toujours beaucoup aimé Annette, mais je ne suis plus... Si vous voulez, ceux qui m'ont plus intéressé, ce sont les Bourbons-Vendôme qui l'ont habité après.
Il y a une autre grande dame dont j'aimerais que vous nous disiez un mot, c'est Madame du Châtelet, la grande amie de Voltaire, et on la retrouve, elle, dans un château alors qu'il faut aller chercher loin, là-bas en Haute-Marne, dans l'est de la France. C'est le château de Siret, avec son petit théâtre, avec sa cuisine incroyable. C'est une maison dont on a l'impression que Voltaire l'a habitée hier encore.
Oui, absolument. Ils y sont encore présents tous les deux. Ils vivaient là-bas, avec la bénédiction de Monsieur du Châtelet d'ailleurs, et étudiants, chacun ses sciences, chacun ses... Et puis alors évidemment, ça tournait toujours autour de la santé du grand homme, qui d'ailleurs jouait la comédie avec beaucoup de talent. Quand il n'était pas content, eh ben, il se mettait à crier, et il tombait plus ou moins dans les pommes. Il arrivait à avoir l'air mourant, je sais pas comment, j'ai jamais compris comment il faisait. Et il y a une période que j'ai beaucoup aimée, c'est leur séjour justement à Lunéville, et chez le roi Stanislas. Le roi Stanislas était un homme extrêmement amusant, parce qu'il avait une ravissante maîtresse. Elle était aussi la maîtresse de son chambellan. Quand ça marchait pas tellement fort, il sautait du lit, se rhabillait et lui disait « Madame, mon chambellan vous dira la suite.
» Et oui, c'est Juliette Benzoni que connaissent évidemment nos auditeurs comme romancière historique, auteur de très grands succès du roman historique, mais qui là, en l'occurrence, nous écrit un roman des châteaux de France. C'est en deux volumes, c'est chez Perrin et c'est préfacé par Stéphane Bern. Je rappelle donc à nos auditeurs que s'ils ont des conseils à nous donner, on pourra en redonner demain. Là, j'en ai quelques-uns. Patricia nous conseille absolument la visite du château fort de Miolan, près de Chambéry, qui est très bien conservé avec une vue magnifique sur la montagne environnante. Nous nous dit-elle. Le château de Bénac au cœur du Périgord a les faveurs de Bertrand qui nous dit que c'est perché sur une falaise dominant la Dordogne et que le panorama là aussi est sublime. Je conseillerais, nous dit plutôt Patrick, le château Salbard du XIIe siècle près de Niort. On en aurait comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Merci beaucoup à Jacques Garcia d'avoir été des nôtres pour nous faire partager sa fièvre châtelaine. Bonjour Elena Morna.